Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Louis Amar, bonjour à tous.
Tu es aujourd'hui au Mans sur le circuit de la Sarthe où la 87e édition des 24 heures touche à sa fin. On y revient dans quelques instants. Aujourd'hui également un invité exceptionnel, Simon Pagenaud, a fait il y a 3 semaines ce qu'aucun Français n'avait fait depuis près d'un siècle, remporter les 500 miles d'Indianapolis. Il sera avec nous en direct autour de 13h25. Et puis beaucoup de choses dans le paddock, la pole de Quartararo en moto, le rallye de Sardaigne et le Grand Prix de France F1 qui arrive la semaine prochaine. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous.
RMC Motors.
120.
Le briefing.
22 heures plus tard, Lucas Vinoy aussi est toujours là. Salut Lucas.
Salut Louis, bonjour à tous.
Toi aussi en direct du Mans, il reste moins de 2 heures de course. Où en est-on ?
Voilà, c'est ça exactement, moins de 2 heures de course. Jean-Luc, la 7 toujours devant la 8, comme c'est le cas depuis le départ. Rien n'a changé en tout cas pour ce qui s'agit des LMP1.
Ah oui, il contrôle parfaitement la situation. Évidemment, cet équipage qui n'avait pas remporter les 24 heures du Mans, on le sait l'an dernier, eh bien c'est l'autre équipe qui devrait être titrée championne du monde. Attention, il reste quand même 1h52, l'écart est un peu supérieur à 2 minutes pour le moment entre les deux Toyota, et derrière c'est la SMP Racing qui occupe la 3ème place du podium.
Je vous félicite, vous avez l'air en pleine forme tous les deux.
On a l'air, tout va bien. Mais c'est une illusion.
Oui, ça n'est qu'une illusion, tout va bien, c'est tout ça va bien. Oui, non mais Jean-Luc, toi résiste à tout. Je crois qu'un invité est déjà à côté de toi sur le circuit de la Sarthe, Jean-Luc.
Absolument, un invité prestigieux et qui nous fait l'amitié et le plaisir de venir au micro de Motors maintenant, puisqu'il s'agit de Nathanaël Berton qui vient de descendre et de quitter le volant de sa rébellion. Salut Nathanaël.
Salut, bonjour à tous.
Beaucoup d'être avec nous en direct dans Motors. Alors, on va tout de suite parler de ta course, hein, de la course de la Lyon qui occupait la 3ème place justement sur le podium derrière les deux Toyota. Vous mainteniez bien cette position, puis il y a eu une première petite incident, on va dire, hier soir vers 9h15 à la chicane.
Ouais, bon, il y a eu pas mal d'incidents.
Oui, on va parler du course, premier.
Hein, c'est un peu triste, hein, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien, et puis bon, bah il y a eu quelques faits de course, quelques erreurs aussi sur la piste, en dehors de la piste aussi. Et moi, j'ai même perdu les freins. Ça, c'est sans doute la conséquence d'une sortie de piste, celle de Gustavo.
Ouais.
Et du coup, ouais, ça fait un peu bizarre de perdre les freins. Hein. Ça va vite, hein, ici.
C'est clair.
Donc, on a de la chance quand même de rester, de pas avoir tapé le mur.
C'était à quel endroit donc
C'était dans les S de la forêt, donc ouais. On arrive quand même assez vite dedans, ouais. Et c'est pas passé loin. Mais bon, on a perdu beaucoup de temps pour réparer, on avait perdu aussi beaucoup de minutes avant. Par contre, en performance pure, il n'y a pas photo, on est là quoi. Donc,
Bien sûr. Alors j'allais te demander évidemment, les Toyota qui mènent depuis le début, on le sait qu'il y avait porter la victoire ici l'an dernier et qui a priori vont remporter le titre. En titre équipe, c'est déjà fait. Elles sont absolument intouchables, même compte tenu des ajustements de réglementation pour permettre. On rappelle qu'elles sont en hybride, hein, et que vous êtes évidemment une équipe privée, une équipe suisse, Rébellion, et que vous n'avez pas ce système hybride.
Ouais, bon, c'est vrai que Toyota, c'est une grosse machine de guerre. Là, honnêtement, ils contrôlent. Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite.
Ouais.
Ils diront que non, hein, mais. Bon, j'ai vu entre le début de course et la mi-course, ils roulaient pas à la même vitesse. Donc,
d'accord.
Je pense qu'ils contrôlent et ils ont raison de le faire. Hein. De toute façon, la course elle est longue, pas faire d'erreur. Et c'est important pour eux de faire évidemment un et deux. Donc, ouais, il y a une grosse différence. Après, nous, on est quand même bien. Le problème, c'est que sur un tour, on peut être plutôt bien, mais on perd beaucoup dans le trafic. En fait, on a moins de
capacité à accélérer. Exemple,
exactement,
ouais.
C'est exactement ça, et du coup on met beaucoup de temps à revenir, notamment sur les LMP2 et en ligne droite, et du coup on se jette un peu, on prend un peu plus de risques, et c'est là où il y a un gros gap.
On comprend évidemment, puis tu descends de la voiture, hein. Tu viens de faire un triple relais d'ailleurs.
J'en ai fait plus que ça.
Oui, j'étais
sur 5 relais d'affilée là.
Celui dont tu descends, et on a vu les temps, hein, parce qu'effectivement t'avais mis du gaz, comme on dit dans ces cas-là. Ça veut dire que tant qu'on est dans l'excitation de la course, la fatigue, là tu ne la sens pas. Enfin, t'es en pleine
ouais,
forme.
Ouais, bah, je suis honnêtement que fatigué.
Ouais.
C'est voilà, triste pour l'équipe, évidemment, parce que, bon, même si la sister car, comme on dit, entre l'autre voiture de chez Rebellion a aussi eu des problèmes, et ça, ouais. C'est dommage. On avait à cœur de bien faire, je pense que l'équipe a vraiment bien travaillé pour cet événement. Honnêtement, on était prêts, nous les pilotes c'est pareil, donc bon bah voilà, des fois ça veut pas sourire. Bon, il reste encore 2 heures de course, donc
vous avez été frappé par des problèmes, SMP Racing en l'occurrence peut l'être également. Hein.
Tout le monde peut en avoir, c'est vrai que là pour le coup eux ils font une course parfaite, ils ont pas perdu de temps bien en fait sûr, avec des soucis mécaniques, donc voilà, il reste 2 heures. On va pas souhaiter le malheur non plus, mais
surtout pas. Non, c'est la course. On rappelle Nathanaël Berton que tu partages ce volant de la Rebellion en compagnie de Thomas Laurent, le jeune pilote français, et Gustavo Meneses, le jeune américain. Par parenthèse, content de tes équipiers. Tu avais déjà roulé pas mal avec eux.
Bah, c'est deux équipiers avec qui je m'entends très bien, qui vont aussi très vite. Bon, justement, des fois, comme aujourd'hui, bon, ils ont fait quelques erreurs, mais mais après, ça fait partie de la course. Peut-être que la prochaine fois, ce sera moi. Donc, en tout cas, moi, je suis très content de faire partie de cette équipe. Que ça soit Rebellion, très content d'être sur le numéro 3 avec mes coéquipiers. Donc, j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Bah, en tout cas, ce ne sera pas avec Thomas parce qu'il a signé chez Toyota. Mais,
oui, on sait ça, hein, puisque Thomas Laurent, effectivement, a été recruté par l'équipe Toyota. Avec les modifications du règlement, pas encore pour l'an prochain, mais dans le futur, tu penses que ça peut permettre à une équipe comme ça, privée avec quand même des moyens importants comme Rebellion, pour véritablement lutter pour la victoire et pour les titres?
En général, quand il y a un changement de règlement, les cartes sont redistribuées.
C'est la volonté de la CO et de la FIA, en tout cas. Hein.
Le seul truc, c'est que limiter un budget en F1, ils avaient essayé, ça n'avait pas trop marché.
Oui, ils essayent toujours, d'ailleurs.
C'est très compliqué, surtout quand il y a un constructeur derrière. On sait pas trop vraiment combien il dépense, c'est difficile à dire. Après, c'est vrai qu'il y a des systèmes pour limiter un peu sur la piste, pour limiter les essais, etc. Après, je pense que Toyota prépare déjà ces voitures.
Certainement. Donc là, ils l'ont annoncé. Hein,
c'est pareil. Ça, c'est très important parce que 2020, c'est demain. Et les nouveaux arrivants, il faut qu'ils préparent dès maintenant. À mon avis, c'est celui qui va être le plus prêt, qui va tirer son épingle du jeu.
Alors, tu as 29 ans, hein, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Tu as un parcours en monoplace également. L'endurance, pour toi, notamment Le Mans, hein, c'est une des plus course au monde, il y a une émotion particulière puis ce tracé très rapide.
Ouais, il y a une grosse émotion ici, il y a beaucoup de passionnés de sport automobile. J'ai passé ma semaine à faire des photos, à signer des autographes.
Et connaisseurs, très connaisseurs.
Et oui, les gens, ils m'amènent des photos que j'ai jamais vues de moi. Enfin, c'est vraiment des passionnés, ça fait très plaisir de voir ça, surtout en France, surtout au Mans. Et puis en plus c'est un circuit qui est vraiment magnifique, quoi.
Oui, c'est un circuit magnifique avec beaucoup de vitesse, et ça
très,
les pilotes
très
de course, c'est ce qu'ils adorent parce qu'on est souvent à plus de 300 km/h.
Ouais, je crois que c'est 5-6 fois par tour au-dessus de 300, voire même au-dessus de 320-330. Et c'est surtout les fameuses S-Porsche.
Oui.
Les S-Porsche qui nous en plus on a une voiture qui est collée au sol dans ces virages rapides. On n'a pas une très grande vitesse de pointe, mais par contre dans les rapides on est vraiment vraiment vite, et du coup pour nous c'est que du bonheur, enfin les sports.
Évidemment je te pose la question, je connais la réponse, hein, Nathanaël, ton ambition ce serait de pouvoir accéder à une équipe d'usine, une équipe officielle. On sait qu'Aston Martin et Toyota ont donc annoncé qu'ils étaient intéressés par le futur règlement. D'après ce que la CO nous a dit, il y aurait d'autres constructeurs intéressés. Tu penses que, sans renier évidemment ce que tu fais avec Rebellion, mais si on a besoin de jeunes pilotes talentueux, c'est important d'être positionné en tout cas.
Ouais, c'est important d'être bien positionné. C'est pour ça que j'ai à cœur de bien faire à chaque fois que je monte dans la voiture. Concernant Rebellion, je sais pas trop ce qui va se passer.
Voilà, j'allais demander ce qu'ils ont annoncé. Quel est le type de contrat que tu as avec eux?
Moi, si Rebellion continue, j'ai un contrat pour eux, enfin avec eux pour l'année prochaine.
D'accord.
Et je serais très content de rester avec cette équipe. Et je pense que, enfin, j'ai cru entendre que Hugues de Schoenach a peut-être des projets aussi avec un constructeur. Alors pourquoi pas Rebellion, un constructeur et Oreca, ce qui serait vraiment génial, honnêtement, faire partie de la genèse de ce projet. Honnêtement, je serais vraiment content. C'est une équipe où je me sens bien, qui est, je sais pas si les gens ont vu, mais à mon avis, oui, les voitures sont fun.
Oui. Là, il y a une décoration, évidemment. C'est pas très radiophonique, mais on va sympa. Le décrire. Là, il y a un artiste qui s'est lâché, là, on peut dire, hein, sur la décoration.
Ouais, il s'est lâché, mais au final, la voiture, on la voit bien.
Bien sûr.
On la repère bien. Mais voilà, c'est un tout, en fait. C'est une équipe qui est très sérieuse, mais qui se prend pas trop la tête également. Donc, c'est honnêtement plaisant de rouler pour une équipe comme ça. Et j'espère que très prochainement, les performances pourront matcher avec des constructeurs comme Toyota et qu'on puisse se battre, on va dire, à la régulière, parce que je pense que ça serait bien pour le show, entre guillemets, et puis pour nous aussi, parce que nous on se bat tout le temps pour la gagne, évidemment. Alors là, la gagne c'était
la troisième place,
le premier des autres, donc le podium, c'est vrai que nous on avait vraiment vraiment envie de ce podium, et surtout on a été dans des très bonnes positions toute la course, jusqu'à ce matin où il y a eu deux trois petites erreurs, donc ça fait toujours toujours un peu mal, mais ça fait partie du Mans. C'est pour ça que quand on fait un bon résultat ici, on l'apprécie.
Oui, on le sait, hein, le Mans, c'est évidemment l'épreuve phare du championnat du monde du WEC, du championnat du monde d'endurance. Quel est ton avenir, là, ton futur? On sait que la première épreuve du championnat, donc 2019-2020, ce sera Silverstone, hein, dans quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe pour toi entre temps?
C'est fin août. Peut-être là je vais avoir 30 ans dans 2 semaines.
Ouais, donc tu vas faire
ça
un
fait
peu
mal
la fête,
de dire
peut-être.
Ça, mais.
Mais c'est la vie, tu sais. Mais tu sais, on y survit, hein, je te rassure.
Je vais peut-être partir en vacances, fêter ça, et puis. Et puis après, de toute façon, me reconcentrer à 100% sur le championnat de l'année prochaine, si l'équipe évidemment continue. Et si jamais l'équipe continue pas, faudra que je me trouve un volant.
Nathanaël Berton, hein, qui est toujours avec nous. On va te lâcher dans quelques minutes, on l'a promis, parce que je sais qu'on t'attend et c'est déjà très sympa d'être venu en pleine course. Il reste 1h42 minutes. La tension, elle est quand même extrême. Là, t'es en train de discuter avec nous, mais après, tu vas retourner dans le stand, vivre un peu la suite.
Ouais, bon.
Dans ces cas-là, on écoute la mécanique. Comment ça se passe dans la tête du pilote?
Ce qu'il y a, c'est que là, on a perdu tellement de temps que. Ouais. À la régulière, on peut pas aller chercher une place de mieux. Il faudra des faits de course, donc finalement, je suis pas trop stressé. J'ai fini mon boulot. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment fatigant. J'ai beaucoup roulé à cette édition.
On a vu ça, ouais.
J'ai enchaîné pas mal de relais à chaque fois. Il y a eu des safety cars, donc je suis assez longtemps dans la voiture, etc. Mmh. Donc pas beaucoup dormi non plus. Je vais suivre quand même. Et la dernière heure et puis, 40 qui reste.
Comme on dit, on sait jamais. D'autres peut-être ne seront pas non plus épargnés par les ennuis. Hein. Tant que c'est pas terminé, c'est du sport mécanique. Tu te rends compte, il reste la longueur d'un Grand Prix de Formule 1. Là. C'est ça. C'est affolant de dire ça. On est à la fin des 24 heures.
Puis j'ai envie de te rappeler, il y a quelques années, Toyota, pour un tour, n'a pas gagné les 24 heures du Mans.
Tout arrive.
Voilà,
on va pas espérer le malheur des autres. Merci infiniment, Nathanaël Berton, d'avoir été avec
plaisir.
Nous. Bravo à toi, et puis on va se retrouver au micro de Motors, en tout cas, sur RMC. Merci infiniment. Voilà, Louis.
Merci, Jean-Luc.
On va relâcher Nathanaël, et puis on va faire, si tu veux, si on a un petit peu le temps, on peut parler du bilan sportif.
Mais absolument. Absolument, parlons-en et racontez-nous aussi peut-être, Lucas et toi, ce qui s'est passé pendant la nuit, parce qu'évidemment c'est un moment toujours très particulier où les courses peuvent se nouer ou se dénouer.
Absolument. Écoute, pour te parler des Toyota, de toute façon ça a été sans problème pour eux, puisque elles dominent la course. Tu l'as vu depuis le début, elle avait signé la pole et l'écart entre les deux s'est établi entre la 7 et la 8. On a bien compris que c'était bien pour tout le monde, j'ose le dire, hein, Lucas, parce que effectivement l'équipage de la Toyota numéro 7 n'a jamais remporté les 24 heures du Mans. L'autre équipage est en tête du championnat du monde et a priori va coiffer la couronne mondiale, ce qui était très important. Donc on va dire, chez Toyota, on gère.
C'est une performance globale et tout le monde sera content peut-être dans 1h40 et 10 secondes, puisqu'on comme tu le disais, Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima se sont déjà imposés aux 24 heures du monde. On le rappelle, c'était l'année dernière. Ils vont remporter le titre de champion du monde d'endurance. Donc pourquoi pas partager? Et puis on sait qu'il y a un autre japonais aussi dans la numéro 7, Camille Kobayashi, et que c'est
tout
important aussi
ancien
pour Toyota.
De Formule 1,
exactement.
On l'appelle, hein, également.
Et c'est très important pour Toyota de faire aussi gagner ses pilotes et de faire rayonner les pilotes japonais sur la scène internationale. Quoi de mieux que le faire via une victoire aux 24 heures du Mans? Donc en effet, si tout se passe bien et s'il n'y a pas d'imprévu, Lopez, Kobayashi et Conway vont remporter d'ici 1h40 leur première 24 heures du
Mans. Voilà, mais on va attendre et évidemment on restera vigilant puisque ça n'est jamais joué. Louis, tu le sais, comme nous, les sports mécaniques, et Nathanaël le rappelait, une Toyota ne parvenait pas à gagner Le Mans avant l'édition 2018 et on était même tombé en panne à la mort du dernier tour, ce qui paraît incroyable, mais au Mans, tout peut arriver. Alors, les troisièmes, il faut en parler, donc c'est l'équipe SMP Racing avec notamment, à l'heure actuelle, au volant, l'ex-pilote de Formule 1, Stoffel Vandoorne. Beaucoup de talent également dans cette équipe russe, mais évidemment, c'est la déception chez Rebellion, on vient de l'évoquer.
Oui, forcément, Rebellion qui espérait signer un podium. La performance était là. Maintenant, c'est vrai que dès les qualifications, on a senti peut-être une voiture pas forcément très fiable, avec deux moteurs un petit peu récalcitrants. On a changer tout ça et finalement c'est le SMP qui est peut-être un petit peu moins rapide, en tout cas
intrinsèquement, c'est vrai.
Mais qui s'est montré plus fiable, même si le SMP a perdu quand même une de ses voitures avec un accident terrible d'ailleurs dans le troisième secteur, hein, une violente sortie de piste sans gravité heureusement. Mais voilà, la voiture qui reste pour l'instant fait le boulot avec Stoffel au volant, qui pour sa première au Mans et sa première sur 24 heures est quand même très impressionnant.
Et puis on peut évoquer rapidement, parce que le temps nous presse, et Simon Pagenaud va nous rejoindre. Louis, tu le sais, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, et c'est un événement puisque je crois qu'on peut dire qu'on a nous toujours suivi l'IndyCar dans Motors et sur RMC. Alors en LMP2 c'est très important, c'est l'autre catégorie de sport prototype, et c'est également des prototypes qui vont très vite, hein, 600 chevaux. On a l'Alpine Signatec avec un équipage composé notamment du Brésilien André Negrao, qui est au volant. Mais c'est pas le seul, puisqu'on a deux très bons Français, notamment le fameux Nicolas Lapierre.
Oui, Nicolas Lapierre qui s'est déjà imposé à trois reprises en LMP2, donc qui a déjà triomphé trois fois aux 24 heures du Mans dans cette catégorie, et qui, on l'espère, va peut-être se diriger vers un quatrième succès.
On croise les doigts.
Ce qui serait absolument exceptionnel. Fabuleux. C'est un pilote très régulier, ouais, très rapide,
extrêmement
qui fait
rapide,
vraiment qui jamais d'usine, d'erreur, hein, voilà, qui était pilote d'usine,
Toyota,
qui va quitter d'ailleurs Alpine. Ça va être une très grosse perte. Il sera remplacé par Thomas Laurent, puisque ouais, Thomas Laurent normalement ne dispose pas d'une place de titulaire chez Toyota l'année prochaine. Mais c'est très très serré, et surtout Signatec qui a fait Alpine, qui a fait qui a récupéré cette place grâce aux problèmes techniques qui sont intervenus
notamment
sur le G-Drive avec Jean-Éric Vergne, qui a eu un gros problème. Ils sont restés plus d'un quart d'heure au stand.
Absolument. Voilà pour les autres classements. Un mot des GT, mais un mot, je te promets. Avec une Ferrari devant une Porsche et une Ford qui est menée notamment par Sébastien Bourdais, qui n'est pas loin, et rien n'est joué. On joue à quelques secondes, Louis. Voilà.
Courage les gars, encore 1h37 de course, mais encore 37 minutes de Motors. Et dans un instant, notre invité, tu le disais, Jean-Luc, Simon Pagenaud, le dernier vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. À tout de suite sur RMC.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC 13h-14h Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Jean Lecroix et Lucas Vinois, Motors en direct sur RMC. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h27. Dans un quart d'heure, Radio Paddock avec Benoît Boutron. Mais d'abord, on accueille notre invité.
RMC Motors, le French's Corner.
Premier Français depuis 1920 à remporter les 500 miles d'Indianapolis. Il est aussi le premier depuis 10 ans à réussir le doublé. Pole position, victoire. C'est un des plus grands champions français qui est avec nous dans Motors. Wow. Bonjour Simon.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et merci à vous d'être avec nous en direct sur RMC.
Oui, salut Simon, c'est Jean-Luc depuis Le Mans. Je sais que c'est une épreuve qui te tient à cœur, oui, aussi. Alors tout d'abord, évidemment, les mots nous manquent, mais on va commencer par félicitations. Tu sais, tu nous as fait vibrer, presque pleurer, parce qu'on a suivi évidemment l'épreuve de près. Et puis je me souviens quand je t'ai reçu dans Motors, tu venais de quitter la France pour les États-Unis très courageusement. C'était en 2006, et j'imagine que là tu mesures bien maintenant tout le chemin parcouru.
Oui, il y a un paquet de chemin parcouru, c'est sûr. C'était un rêve de gamin, très honnêtement. Quand j'avais 6-7 ans, je rêvais des 500 miles d'Indianapolis comme je pouvais rêver de la F1 à l'époque. Et il a fallu trouver ma direction dans ma carrière. Et les États-Unis m'ont ouvert en grand les bras. Et je dois dire, d'accomplir son rêve, c'est quelque chose. Honnêtement, de vivre son rêve, c'est quelque chose. Mais d'avoir du succès et et d'accomplir ses rêves, c'est encore plus fort.
Bah oui, je crois qu'il faut à nouveau insister sur l'impact de cette épreuve. On rappelle quand même que Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 avec la puissante équipe McLaren, a été incapable de se qualifier cette année. Évidemment, c'est pas faire offense à Alonso, c'est faire hommage à ton talent et à ceux qui ont réussi à se qualifier. Parce qu'on rappelle, Indianapolis, c'est 500 miles, c'est 800 km, une épreuve qui peut durer plus de 3 heures, avec tout un tas de drames, d'émotions. Comment as-tu vécu tout ça? On t'a senti très fort dès ta pole, hein, on l'a dit, dès ta pole position, mais après, on a senti que tu maîtrisais cette épreuve.
Écoute, la météo était un peu incertaine, donc on a opté pour une stratégie très agressive dès le départ. On avait très clairement la meilleure voiture un petit peu, on s'en est rendu compte très rapidement pendant les essais. En qualification, on l'a montré, on avait la vitesse. Après, évidemment, il y a toute une histoire de consommation d'essence, gérer les pneumatiques, gérer le trafic, mais on a attaqué d'entrée de jeu pour essayer de garder la tête ou de jouer dans les deux, trois premiers. Le problème, c'est que on peut s'imaginer à ces vitesses-là, à 400 km/h, les turbulences sont assez importantes quand tu rétrogrades dans le paquet. Et l'objectif, c'était vraiment de rester soit premier, soit deuxième. Donc, on a fait ça, tout s'est bien déroulé, la stratégie était parfaite. Et puis, on a eu une super bataille avec Alexander Rossi à la fin pour donner un sacré spectacle.
Ah, c'était génial, effectivement. Alexander Rossi, qui est le pilote américain qui a fait la Formule 1, si on le rappelle, hein, et qui avait remporté ses 500 miles en 2016, donc il y a 3 ans maintenant.
Oui, c'est un très très bon pilote, il est très agressif en général, donc il avait, évidemment, c'était aussi intéressant pour les fans, parce que moi je cours sur un moteur Chevrolet, lui est sur un Honda, donc il y avait une belle bagarre à ce niveau-là, et ça montre que IndyCar fait un sacré boulot au niveau des voitures pour faire du spectacle, quoi.
Alors, c'est 200 tours à parcourir, hein, de cet ovale de 2 miles et demi qui fait 4 km exactement. Cette bagarre, tu en parles avec Alexander Rossi, quand on l'a vu revenir, on l'a senti très très fort également. Puis lui, il avait l'expérience déjà de la victoire. On avait compris que quand tu l'as peut-être laissé passer, c'est toi qui vas me l'expliquer, tu devais gérer également le carburant, tu l'as évoqué tout à l'heure.
Oui, alors vers le 140e tour, on s'est rendu compte qu'on consommait trop d'essence en tête. J'avais à ce moment-là mener toute la course, donc forcément sans respiration je dépensais plus d'essence. Je me suis servi de New Garden en fait pendant un relais complet pour économiser, ce qui nous a permis de nous retrouver sur une stratégie d'essence similaire à celle de Rossi. Mais cependant il aurait eu un petit peu plus d'essence, donc on aurait dû économiser de l'essence derrière lui s'il n'y avait pas eu le drapeau jaune en fin de course. Mais grâce au drapeau jaune, on était tous à l'attaque en fin de course. Et c'était un peu compliqué les 15 derniers tours. Il fallait, il fallait calculer. En fait, il m'a fallu calculer combien de temps il lui fallait pour me doubler et combien de temps il me fallait pour le redoubler. Et lorsqu'il m'a passé 3 tours de l'arrivée, c'était le moment parfait pour pouvoir le redoubler à la fin.
Simon Pagenaud, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, est l'invité de Motors en direct sur RMC. Simon, on va parler dans quelques instants de l'honneur qui vous a été fait. Vous avez été reçu par le président américain Donald Trump. Vous allez nous raconter ça. On a évidemment plein de questions à vous poser là, tu vous en doutez. Mais d'abord, en 3 semaines, qu'est-ce que cette victoire a changé dans votre vie? Est-ce que vous avez observé quelque chose de différent dans le regard des gens notamment?
Oui, c'est une très bonne question. Les 3 dernières semaines, j'ai l'impression de ne pas m'appartenir, on va dire. On m'a emmené à droite, à gauche. J'ai fait beaucoup d'interviews. J'ai dû représenter l'IndyCar à New York. On est allé à Détroit. On est allé à Dallas, au Texas, notamment pour 2 courses, mais également pour de la représentation. Mon emploi du temps se remplit chaque journée un peu plus. Évidemment, on a beaucoup de partenaires à Team Penske qui souhaitent me recevoir. Et en effet, je me rends compte que le regard des, surtout des supporters sur les courses a changé un petit peu. C'est un petit peu plus agressif quand on me demande un autographe par rapport à avant, mais tout se passe bien. Les Américains sont en général très respectueux du temps. Et ça se passe bien, c'est sûr qu'en effet je me suis rendu compte que les choses changeaient un petit peu, mais c'est pas pour ça que moi je vais changer.
Alors l'histoire ne dit pas si lui vous a demandé un autographe, mais le président américain Donald Trump vous a reçu à la Maison Blanche pour vous féliciter après cette victoire. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler à quelqu'un qui connaît Donald Trump, alors racontez-nous, il est comment en vrai? Décrivez-nous cet entretien et ce qu'il vous a dit, parce que je crois qu'en plus il avait vraiment suivi la course et qu'il vous a raconté en détail ce qu'il en avait pensé.
Oui, alors ça a été une belle visite, parce que pour un Français d'être invité à la Maison Blanche, c'est assez exceptionnel. Donc déjà, j'étais très honoré d'avoir cette chance de représenter la France mon pays à la Maison Blanche, c'est quand même quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Donc évidemment, il y a toute l'histoire. Il y a également beaucoup d'histoire française à Washington. Donc c'était sympa à voir. J'en ai pu visiter le Capitole et visiter la Maison Blanche avec toute mon équipe de la numéro 22. Donc on a passé une super journée. Et puis évidemment. Évidemment, on a tous des visions politiques différentes, hein, on ne va pas se le cacher. Tout le monde a ses vues et ça se respecte. Je crois que Donald Trump est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses clairement. Et ça plaît pas. Mais il a été très, très agréable, très franchement. Il nous a accueillis à bras ouverts. Et je dirais, pas de façon très politique, il était très ouvert. Il avait juste envie de discuter de la course. Il m'a exactement posé la même question sur les 15 derniers tours. Il était très intéressé sur ma stratégie, en fait. Comment j'envisageais de redoubler Rossi à la fin. Et clairement, il connaît très bien la course et il est très fier des 500 miles d'Indianapolis, qui est une des plus grandes courses au monde et qui est aux États-Unis. Donc, forcément, c'est quelque chose dont il est très fier. Mais très honnêtement, je lui ai offert un casque et puis il nous a accueillis avec ma voiture dans les jardins de la Maison Blanche. C'était vraiment un moment inoubliable.
À l'inverse, Simon, avant que je redonne la parole à Jean-Luc dans une seconde, comment vous vivez l'écart de notoriété qui est constatable entre les États-Unis et la France pour vous? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu, par exemple, les mêmes honneurs dans votre pays, de ne pas avoir été reçu à l'Élysée, ce qui aurait pu se justifier puisque ça fait un siècle, encore une fois, qu'un Français n'avait pas réussi ce que vous avez accompli?
Mais c'est compliqué parce que c'est quand même deux continents qui sont très très loin. Et puis il y a le décalage horaire aussi qui malheureusement, aussi simple que ça peut le paraître, ça fait une grosse différence au niveau des courses qui débutent ici à 14h. C'est le soir pour vous, donc forcément c'est un peu plus compliqué de montrer les courses en France. Mais Canal Plus fait du bon boulot avec ça. Et j'espère que ça va être de plus en plus montré, étant donné des résultats qu'on a. Donc c'est comme ça, j'ai pris la décision de venir aux États-Unis. Peut-être qu'on ira à l'Élysée, je l'espère. On va en tout cas avoir une tournée médiatique en France avec IndyCar, où le grand trophée BorgWarner va me suivre. Et j'espère à ce moment-là qu'on pourra faire quelque chose à l'Élysée. Pour l'instant, c'est encore une question, mais il ne faut pas oublier non plus que le président a autre chose à faire. Il est occupé.
Jean-Luc. Il est effectivement un peu occupé, Simon. Je suis persuadé que le ministre des Sports va retrouver ton téléphone aussi. J'en suis absolument persuadé pour t'envoyer un message de félicitations. C'est de l'humour. Tu le disais, il y a eu deux épreuves qui se sont déroulées juste derrière. Et puis j'ai envie de revenir un tout petit peu, parce qu'on va prendre le temps, l'épreuve d'avant. C'est-à-dire il y a eu une épreuve à Indianapolis qui utilise une partie du circuit routier que tu avais remporté également, qui t'a mis en confiance deux semaines avant. Est-ce que ça a été peut-être la première pierre de, je vais pas dire du Brickyard parce que c'est trop facile, puisqu'on sait que Brickyard, hein, c'est le nom de l'ovale d'Indianapolis qui est constitué de briques à la base. Mais est-ce que ça a été important, cette première victoire à Indianapolis deux semaines plus tôt?
Bah, une victoire, ça aide toujours. C'est important pour la confiance des mécaniciens, important pour la confiance des ingénieurs et du pilote, ça c'est certain. On reste, et ça je pense qu'en sport automobile, on le dit pas assez, mais ça reste un sport d'équipe, que ce soit la F1 ou l'IndyCar ou les 24 heures du Mans, on le voit très bien 24 heures. C'est un sport d'équipe où le pilote est à la fin de la chaîne. Mais sans les mécaniciens, on peut pas avoir de bons arrêts au stand, on peut pas avoir une bonne course. Donc pour moi, c'est évident que d'avoir gagné Indianapolis au Grand Prix, ça a énormément aidé, ça a donné un sacré coup de boost. Et puis ensuite, on est allé de l'avant avec toute la confiance dont on avait besoin.
Alors, on l'a dit, tu avais l'épreuve de Detroit, hein. Detroit juste après. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te reconcentrer finalement après avoir vécu une telle émotion quelques jours à peine après, puis de passer quand même d'un grand ovale, on l'a dit, avec des vitesses de pointe de 400 km/h, à une course, on le sait, hein, sur cette île un petit peu particulière de Detroit? Est-ce que la décompression a été brutale?
Très brutale.
Je m'en doute.
Très brutale. J'ai pas eu un moment pour moi-même après les 500 miles. Pour vous donner une idée, entre le moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée et le moment où j'ai eu pour souffler et me changer, il y a eu à peu près 8 heures d'écart. Donc je suis arrivé en fin de la course, c'était à 16 heures. Et à 22 heures, finalement, je pouvais enlever ma combinaison. Donc et la soirée n'était pas finie. J'avais d'autres obligations. Et ça a été comme ça jusqu'à Je suis arrivé mercredi soir à Détroit, vendredi on était en piste et bon malheureusement j'étais pas suffisamment bien préparé, mais c'est le revers de la médaille. J'avais autre chose à faire pour représenter une gare et représenter la victoire des 500 miles qui reste très honnêtement la plus grande course qu'on puisse accrocher à son palmarès.
Bah c'est clair, et puis je te dis, hein, Fernando Alonso lui-même court après, il l'a remporté ici au Mans, tu le sais, il est actuellement deuxième, hein, je pense que tu suis ça d'un œil aussi,
oui, aux
24 heures du Mans. Là. On aurait tellement de questions à te poser, mais on va rester sur l'IndyCar encore avant de venir au Mans pour faire la transition. J'allais te dire, c'est ton adversaire direct, aussi l'un de tes adversaires directs évidemment, puisque l'équipe Penske est très puissante, il y a Will Power qui lui aussi a été champion, avait remporté des 500 miles d'Indianapolis, et puis il y a un certain Joseph Newgarden, qui est un homme extrêmement performant avec Alexander Rossi. Ça tombe bien, vous êtes tous les trois en tête du classement général provisoire. Alors est-ce que tu as pris la mesure maintenant que toi aussi tu es vainqueur d'Indianapolis? Je ne sais pas si tu avais un complexe, on ne va pas dire ça comme ça, un pilote n'en a pas, un champion n'en a pas, mais bon, maintenant tu l'as fait toi aussi.
Oui, la grosse question, c'était de savoir, pour moi, c'était de savoir si j'allais avoir l'opportunité de remporter cette course avant la fin de ma carrière. Donc, j'ai encore 10 ans de carrière, ce qui est bien, hein, donc j'ai encore le temps, mais on ne sait jamais avec Indianapolis. C'est un peu la course qui décide de son vainqueur, très franchement. C'est une course tellement particulière, un petit peu une loterie parfois. Il faut avoir le bon matériel, il faut être là, il faut avoir la bonne équipe, il faut que tout soit réuni. Donc, pour moi, c'était la question, c'était est-ce que j'allais avoir cette opportunité à nouveau, puisque je l'avais déjà eu quelques années auparavant. Et c'est fait. Donc je suis tranquille, maintenant je peux voler les ailes libres. Et ça pour moi c'est sacré. Donc maintenant je peux me concentrer sur mon pilotage. Évidemment je suis troisième au championnat, l'objectif c'est d'en remporter un autre. Donc après 2016, je pense qu'on a une belle opportunité cette année. C'est honnêtement magnifique le championnat en ce moment. On a des forces en présence exceptionnelles. Il y a donc Andretti avec Rossi qui sont très très forts. On a évidemment Penske avec Will Newgarden et moi qui sommes également très très proches. Et puis on a Scott Dixon qui est 5 fois champion.
Bien sûr.
Je pense qu'on va se retrouver tous les 4 à la fin et ça va être une super bataille. Donc,
alors je donne justement les.
On va cravacher.
Oui, les positions au championnat, donc Newgarden, ton équipier, 367 points. Alexander Rossi, on vient d'en parler, ex-pilote de Formule 1, vainqueur d'Indianapolis également, 342. Toi, tu es troisième avec 319. Et derrière, tu viens de l'évoquer, le néo-zélandais Scott Dixon, 5 fois champion IndyCar à 278 points. Takuma Sato, lui aussi vainqueur. Alors, on doit déjà malheureusement arriver à la dernière question, Simon, et j'en suis désolé. La transition avec Le Mans, bah, tu sais que Scott Dixon est ici. Au volant d'une Ford, et puis Sébastien Bourdais, que évidemment qu'on porte tous dans notre cœur, le manceau, qui est aux commandes de la. Alors je peux te dire qu'il est actuellement quatrième de sa catégorie. Il a fait tout à l'heure un triple relais absolument formidable. Tu as vécu cette épreuve également. Tu as été pilote d'usine Peugeot. Qu'est-ce que tu penses de cette édition des 24 heures? Si tu as eu le temps de jeter un œil avec le décalage.
Non, j'ai suivi et c'est super. Ils ont retransmis toute la course à la télé ici.
Ah
donc,
bah génial.
Le Mans est très très suivi aux États-Unis. Donc, évidemment, j'ai suivi Seb, je suis Scott aussi. On a eu le temps de discuter un petit peu avant qu'il parte d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, c'est une édition assez intéressante. Enfin, malheureusement, pas aussi intéressante que j'aurais souhaité. On a eu des éditions un petit peu plus excitantes que
c'est
ça,
vrai,
mais
vrai,
bon, Toyota gère. En même temps, ils font les efforts pour, donc ils le méritent bien. Et après, en GT, je crois qu'il y a quand même une belle bataille.
Ah oui,
il y a toujours des très très belles batailles. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, honnêtement, c'est Corvette qui change les freins en 35 secondes. Alors ça, c'est quand même incroyable. Donc, il y a quand même des choses. Il n'y a pas que sur la piste, des fois, où c'est exceptionnel. Et là, ils ont fait une belle preuve de savoir-faire.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci
Simon
beaucoup,
Pagenaud.
Simon Pagenaud.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
Merci à vous, encore félicitations et à très très vite sur RMC. 13h42, vous écoutez Motors, Lucas Vinoy. Un point rapide sur les 24 heures du Mans.
1h17, il reste 1h17. Après, ce sera la libération pour les pilotes, pour tout le monde, pour le paddock. La 7 est toujours devant la numéro 8, Lopez devant Nakajima. 2 minutes 16 d'avance pour José Maria Lopez, la numéro 7 qui se dirige doucement mais sûrement vers la victoire.
Enfin, doucement, tout est relatif.
Oui, 300 km/h, voilà.
Wow. Allez, 13h42 sur RMC. Dans un instant, Motors revient avec de la F1, du rallye et de la moto dans Radio Paddock.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h44 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors en direct. On est ensemble jusqu'à 14h. Vous retrouverez alors Jean-Christophe Drouet et l'Intégral Sport. Mais d'abord Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec un revenant Benoît Boutron qui est là. Salut Ben.
Salut les amis.
Salut Benoît.
Monsieur Amar, il ne faut pas éteindre la voiture et la rallumer à chaque fois que tu reviens de pub, hein, parce que ça te coûte cher
en essence. Oui, c'est vrai.
Redémarrer à chaque fois, c'est à chaque
pas
jingle.
Très écolo. T'as raison, on va faire passer le message. Bonne fête des pères.
Ah, merci.
Benoît Boutron. Oui, la première.
Bonne fête, papa.
La première,
bonne fête,
parce que c'est
papa.
Pour ça que tu t'étais absenté.
J'ai pas eu de cadeau.
Évidemment.
Oui, pas encore. Ça va venir. Bonne fête, évidemment.
Bonne fête au King également.
À tous les papas qui nous écoutent.
À tous les papas.
Lucas, nous deux, on a encore un peu de boulot. Hein.
Oui, faut vous y mettre, les gars.
Dans un instant, la moto. Ensuite, la F1. On parlera du Grand Prix de France qui arrive dans une semaine avec le président de la région, Christian Estrosi, qui sera avec nous dans Motors. Mais d'abord, ça vient de tomber. Et c'est tout chaud, Benoît, le rallye de Sardaigne.
C'est jamais terminé. Vous parliez des 24 heures du Mans avec une confortable avance pour la Toyota qui est en tête. Ce n'est jamais terminé. En rallye, on a pu le vérifier. Aude Tanak se dirigeait tranquillement vers une victoire au rallye de Sardaigne et finalement, il n'a pas gagné. Il était leader tranquille, mais il a été victime d'un incident dans la Power Stage. Vous le savez, c'est la dernière épreuve. Il est parti en tête à queue en fait, dans une épingle où les ornières étaient très marquées. Il avait beaucoup de temps à repartir et du coup, c'est Dani Sordo qui en profite pour gagner ce rallye. Il avait vraiment un boulevard devant lui, Aude Tanak. Il aurait pu faire un grand pas au championnat du monde et malheureusement pour lui, il termine seulement 5e. Je vous donne quand même le podium. Sordo en tête devant Suninen qui fait 2e, Mikkelsen 3e, Evans 4e. La bonne nouvelle pour Sébastien Ogier qui lui aussi a un week-end très compliqué tout comme toute l'équipe Citroën, c'est que Ogier n'est plus leader mais il a seulement 4 points de retard sur Tanak. Ça c'est une bonne opération effectivement messieurs.
Ah excellente, effectivement j'étais en train de regarder. Alors là tu nous, on n'a pas eu le temps de tout, on n'a pas vu. Là tu nous l'apprends parce que on suit évidemment Le Mans, on est quand même là pour ça. On a un œil sur la moto également puisque le MotoGP est en place et puis on était avec Simon Paldo. Bah écoute, étonnante nouvelle qui démontre une fois de plus que les sports mécaniques, bah c'est ça hein, Lucas, tout peut arriver. Effectivement, je regardais le classement, Ogier était à 142 et Tanak 140 et Thierry Neuville qui n'a pas fait une très belle opération non plus à 132. Donc donne-nous juste les points des trois si tu veux bien, si tu les as. Benoît,
alors je vais te retrouver ça. Vous regarderez également sur les réseaux sociaux l'image de Tanak en pleurs, c'est terrible.
Ça lui est déjà arrivé hein. L'année dernière, il était largement en tête d'un rallye. Il lui arrive toujours des petites mésaventures. Franchement, il est un petit peu chat noir parce que c'est quand même un excellent pilote, il faut
excellent,
le dire.
Bah,
dans une voiture qui est pareil, excellent.
Mais ça peut être imputable au stress ou pas, à votre avis?
Je sais pas parce que c'est vrai qu'il à chaque fois il est toujours très bon, très rapide. J'ai pas l'impression que ce soit la pression. Est-ce que c'est du relâchement? L'année dernière il avait crevé lors d'un rallye en fin de saison, mais c'était pas forcément de sa faute. Là visiblement on n'a pas vu l'image, mais on peut peut-être lui imputer la responsabilité. En tout cas, à vérifier, mais je me demande si ce n'est pas la première victoire de Dani Sordo hors rallye asphalte. Il me semble qu'il n'avait gagné des rallyes que sur asphalte.
Puisque
Dani
c'est
Sordo.
Un spécialiste de l'asphalte, longtemps chez Citroën, on s'en souvient, le pilote espagnol qui était cantonné à un rôle de second, il faut bien le dire maintenant, pour aider ses adversaires finalement, et c'était un petit peu dur à vivre pour lui. Bah, c'est vrai que c'est une sorte de renaissance, mais là aussi, il faut être positionné pour pouvoir profiter des erreurs des autres. Alors, pour répondre effectivement à cette question, Benoît, bah, écoute, forcément oui, on peut dire qu'un champion qui craque, et lui ne l'a pas fait par rapport à Ogier et Neuville non plus. D'ailleurs, je le rappelle, il n'a toujours pas été champion du monde, Belge. Donc, je pense que psychologiquement, et on peut lui faire confiance, même s'il a été frappé un petit peu par la malchance aussi, Sébastien Ogier a encore une petite longueur d'avance. Lui, il en a des titres.
Le rallye de Sardaigne qui s'est donc achevé il y a quelques minutes. Un événement va lui débuter dans moins d'un quart d'heure maintenant, Benoît. Le MotoGP, le Grand Prix de Catalogne avec un Français
incroyable.
En pole position.
Quelle saison il réalise quand même, Fabio Quartararo. 20 ans seulement, c'était le plus jeune poleman de l'histoire en MotoGP. Il a récidivé la deuxième pole de sa saison en Catalogne. C'est un Grand Prix qu'il aime beaucoup puisque l'an dernier en Moto2, on rappelle qu'il a été poleman et vainqueur. Et une nouvelle fois, il a été le meilleur. Il avait été très bon dès les essais libres. Il a été très bon au warm-up. Il a encore fait le meilleur temps ce matin. C'est assez hallucinant la performance de Fabio Quartararo qui partira donc en tête de ce Grand Prix de Catalogne devant Marc Marquez et Franco Morbidelli. Au départ, c'était Vinales, mais il a été pénalisé puisqu'il a gêné Quartararo dans un tour de qualification hier. Deuxième ligne, Rossi, Dovizioso, Vinales, donc Petrucci, Rins et Crutchlow en troisième ligne. Jorge Lorenzo est loin et il partira 10e. Johan Zarco aussi 18e. Ce qui est incroyable, Jean-Luc, c'est que Quartararo, il y a 10 jours, il s'est fait opérer du fameux syndrome des loges.
Absolument, alors c'est un syndrome particulier en deux mots, puisque les pilotes moto ont évidemment une condition physique exceptionnelle, il faut tellement tirer sur le guidon, pousser sur le guidon avec peu de déplacement que les muscles, notamment des avant-bras et de très nombreux pilotes ont été opérés du même syndrome dans le passé, oui. Eh bien le muscle gonfle au sein de sa gaine, il faut ouvrir la gaine du muscle et carrément oui. pour lui permettre de s'étendre et normalement on a besoin d'un individu normal de quelques semaines pour se remettre, mais pas les pilotes de Grand Prix. Et là Fabio, en plus il a pris une gamelle, hein, formidable, on peut l'appeler comme ça en FP3, la première en MotoGP, et ben non, pas de problème, il est sur la grille, avec sa pole. Ah ouais, non, il est, écoute, pourvu qu'il prenne un bon départ, parce qu'on le sait, c'est un petit peu le point faible pour le moment. Évidemment.
Voilà, il n'a jamais gagné une place sur un Grand Prix MotoGP sur un départ. C'est
ça,
terrible.
C'est dingue, ça. C'est dingue parce que pourtant, il a un petit gabarit. Et il est comme Marc Marquez. Alors, on pourrait comprendre, par exemple, Rossi est très grand, par exemple. Donc il
mais il part souvent en wheeling, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui, la moto se cabre un petit peu. Ouais. Mais on en oublierait presque, il est rookie, Fabio Quartararo. C'est ça qui est hallucinant.
C'est ça qui est incroyable, effectivement. Puis il n'avait jamais chuté au guidon d'une MotoGP avant cette chute en 3e séance d'essai libre. Donc pourvu qu'il prenne un bon départ, et là je pense qu'on peut avoir un grand prix, mais alors absolument enthousiasmant. Je suis persuadé que JC va nous laisser une petite place pour en
évidemment,
parler
évidemment qu'on va suivre ça, fais-moi confiance Jean-Luc.
Ah bon, ça va alors.
Et juste pour terminer, pour que vous rendiez compte un petit peu de ce qu'est le syndrome des loges, c'est donc une dizaine de points de suture sur l'avant-bras. Petit exemple donné par Hervé Poncharal dans la presse ce matin. En 2004, Marco Melandri s'était fait opérer, pareil, une semaine avant un Grand Prix. Il avait pris le départ, il avait terminé sur le podium. Mais pour vous dire l'intensité, tous les points de suture avaient sauté sur le Grand Prix. Imaginez la douleur des points de suture qui sautent sur l'avant-bras pour aller chercher un podium. MotoGP.
Voilà.
Imagine la tête de Louis.
Oui. Tu comprends. Enfin, vous comprenez pourquoi je dis toujours, moi, ces types-là, c'est des héros. Les pilotes, les pilotes de Grand Prix moto, ce sont des héros.
Fabio Quartararo, qui va donc partir en pole position du Grand Prix de Catalogne. Départ dans 9 minutes. Grand Prix que vous suivrez évidemment avec Jean-Christophe Drouet dans l'Intégral Sport. Fabio Quartararo, niçois d'origine. Voilà qui doit satisfaire le maire de la ville qui est avec nous dans Motors en direct. Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Avec vous, on va parler du Grand Prix de France F1 évidemment qui arrive la semaine prochaine. Mais d'abord une question forcément sur Fabio Quartararo, parce que il doit vous enthousiasmer de semaine en semaine, vous qui en plus êtes passionné de moto.
J'ai toujours cru en Fabio et depuis le début de la saison il a manqué de chance de toute évidence, parce qu'il aurait pu faire des performances bien au-delà de ce qu'il a réalisé, mais je pense qu'au Grand Prix de Catalogne il tient peut-être enfin ce podium et cette première place au sommet du podium. En tout cas, nous, tous, les Niçois, les Français, sont à fond derrière lui. Je crois que c'est vraiment la révélation de ces 3-4 dernières années qui va nous apporter sans doute d'immenses joies dans les Grands Prix moto.
Bonjour Monsieur le Maire, bonjour Christian, c'est Jean-Luc Roy depuis Le Mans.
On se connaît. Oui Jean-Luc, bonjour. Oui,
bonjour, allez je vais vous vouvoyer, même si dans la vie on se tutoie, Monsieur le Maire. D'abord, on peut se tutoyer, allez on y va.
Je ne suis pas Monsieur le Maire, je suis Christian Estrosi. Voilà, vous savez que je suis je n'oublie pas ce que j'ai partagé dans les sports mécaniques et je reste un de ceux qui se sentent très modestes face à ces champions, ces grands prix, ces courses absolument extraordinaires qui font vivre les passions de tant de ceux qui vous écoutent en ce moment.
Eh oui, mais vous l'avez été également, pilote de Grand Prix et extrêmement talentueux. Moi, j'ai de très bons souvenirs. On se connaît depuis un petit moment. Hein. Quand vous étiez au guidon, ça nous rappelle de grands souvenirs. On va parler de ce Grand Prix de France que vous avez eu l'immense mérite de ramener enfin, je dirais, après 10 ans sur le territoire français. Alors, la trajectoire a été difficile. Hein. En France, malheureusement, il y a un certain nombre de choses, notamment vis-à-vis des sports mécaniques qui sont difficiles. Mais vous vous êtes toujours battu pour ça et vous n'avez jamais renié cette passion pour les sports mécaniques. Mais c'est pas uniquement affaire de passion. On va en parler.
Mais c'était pas une affaire de passion. C'est aussi l'ancien ministre de l'Industrie qui vous parle. Pour moi, c'était tellement inouï que la France, pays fondateur de l'industrie automobile au début du siècle dernier, qui est une des rares nations à avoir encore des marques prestigieuses automobiles qu'elle produit sur la planète entière, avec PSA, avec Renault notamment, ne puisse plus depuis 10 ans participer, concourir à l'organisation du championnat du monde de Formule 1. C'était inadmissible. Et voilà, je suis content, modestement, d'avoir contribué à ce retour.
Vous pouvez être non seulement content, mais fier, et je pense que vous l'êtes également. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour, on va dire, fédérer les énergies et ramener enfin la Formule 1 sur le territoire français, en l'occurrence sur le circuit Paul Ricard? Ça bénéficie évidemment à toute la région au plan économique.
Non, c'était... nous étions mal aimés. Nous étions mal aimés. On ne voulait plus de la France. Dans la FOM, dirigée par Bernie Ecclestone à l'époque, tout simplement parce que je pense que il y avait de grosses exceptions de l'organisation par rapport à d'autres grands prix de Formule 1, là où il s'était déroulé pendant des années. C'était sans doute injuste, mais pour laver cette injustice, il fallait fédérer beaucoup de monde, et notamment une espèce de French Connection, je dirais.
Oui.
Nous avions, je le rappelle, trois directeurs d'écurie français, avec Eric Boullier pour McLaren, avec Frédéric Vasseur pour Sauber, avec Thierry Labitpoul pour Renault. Nous avions des pilotes qui montaient, je pense à Pierre Gasly, à Romain Grosjean, à Esteban Ocon notamment, Charles Leclerc, Franco Monégasque qui commençait à pointer son nez, et puis l'écurie Renault qui était décidée sur quelques années à revenir au plus haut niveau, avec un président de la Fédération internationale qui n'était pas moins un grand Français dans l'histoire de l'automobile, avec Jean Todt. Et je me suis dit qu'avec ça, quand même, la France méritait d'être entendue. Voilà. Et puis, quand on a expliqué dans le plus grand secret, parce que ça a duré un an, à Bernie Ecclestone, qu'au fond, c'était pas une affaire de gouvernement, c'était pas une affaire d'intrigants impliqués dans des milieux intermédiaires du sport, mais c'était une collectivité et une addition de collectivités, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ces trois grandes métropoles, Nice, Toulon, Marseille, ses départements, sa chambre régionale de commerce et d'industrie, qui se proposaient à travers un groupement d'intérêt public de l'organiser au circuit Paul Ricard, en accompagnant aussi la remise aux normes du circuit Paul Ricard. Avec l'aide de tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, nous avons fini par convaincre.
Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été avec nous.
À bientôt, la semaine prochaine.
Merci pour votre accueil. Bonne chance, au revoir, merci.
Au revoir, Christian Estrosi, et à la semaine prochaine, effectivement, puisque Jean-Luc et Lucas, vous continuez votre Tour de France. Après Le Mans, vous serez au Castellet ensemble, on ne vous sépare plus, pour le Grand Prix de France de Formule 1. Lucas, en un mot, les positions sur les 24 heures.
La 7 devant la 8. 1h03.
Vous êtes parfaits les gars. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant dans l'Intégral Sport avec Jean-Christophe Drouet qui est là. Ça va, JC?
Salut Louis, ça va et toi?
Salut, ça va très bien.
Ouais, je comprends pourquoi le français de voix. C'est juste qu'il fallait que je me chauffe la voix. Bah, et... À tout de suite.
À tout.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.